Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est la fin de l'année, l'heure des bilans, un exercice auquel personne n'échappe. C'est l'heure aussi des grands rassemblements dans l'Église. Cette année encore, les jeunes et les familles seront à l'honneur à Strasbourg, Madrid, Lorette, Barcelone ou encore Nazareth. Nous en parlerons dans ce magazine et nous irons également à Bangui, où chaque jour apporte son lot de morts. Les soldats français et les troupes de la MISCA peinent à calmer les violences qui se sont déclarées dans la ville, minées par la haine confessionnelle. Un pape qui démissionne pour la première fois depuis des siècles, un jésuite latino-américain élu au siège de Pierre pour la première fois dans l'histoire. C'est une année extraordinaire pour la vie de l'Église qui s'achève. Dressant le bilan de cette année 2013, le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican, estime tout d'abord que le choix prophétique de Benoît XVI continuera à marquer la vie de l'Église et qu'il aura un impact certain sur les prochains pontificats. Olivier Bonnel.
Par son geste lucide et humble, Benoît XVI a ouvert une brèche. En peu de temps, son successeur, le pape François, a acquis une popularité extraordinaire et inattendue à l'échelle mondiale, y compris parmi les non-chrétiens. Parce que ses gestes et ses paroles, explique le père Lombardi, répondent à une attente profonde de toute l'humanité. Cependant, il ne faudrait pas, selon lui, que cet engouement planétaire se limite à sa personne. Le pape François a donné le ton et c'est toute l'Église qui devrait adopter son style pastoral. C'est à cela, selon le directeur du bureau de presse, que doivent servir les fameuses réformes dont on parle tant. Certes, le Saint-Père a pris de nombreuses initiatives visant à rendre les structures et les organisations de l'Église plus transparentes et efficaces, et surtout plus conformes à la mission essentielle de l'Église, à savoir l'annonce de l'Évangile jusqu'aux frontières du monde. Mais on aurait tort de s'attarder outre mesure sur des décisions qui ne constituent qu'un aspect secondaire de son pontificat, l'essentiel étant l'annonce de l'Évangile et la mission de l'Église. Le pape François a mis l'Église en mouvement. Nous sommes donc appelés à nous convertir, à accueillir les surprises que Dieu nous réserve et à comprendre ce qu'il nous demande. C'est, selon le père Lombardi, la grande nouveauté de ce pontificat.
Et en ce vendredi 27 décembre, Benoît XVI est rendu à la résidence Sainte-Marthe pour partager son repas de midi avec le pape François. Lorsqu'il lui avait rendu visite au monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican pour lui présenter ses vœux de Noël, le pape François avait invité son prédécesseur à profiter de cette période de fête pour venir déjeuner avec lui à Sainte-Marthe. C'est donc chose faite. Le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti, et l'assesseur pour les affaires générales de la secrétaire d'État, Mgr Wells, ont participé au repas. Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande et poumon de la construction européenne, se prépare à accueillir à partir de ce samedi et jusqu'au 1er janvier la 36e rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Thésée et placée comme chaque année sous le signe de la confiance. Dans son message de bienvenue, l'archevêque de Strasbourg, Mgr Jean-Pierre Grallet, souligne que le Rhin n'est plus une frontière mais comme au Moyen-Âge, un axe de communication. Les quelques 30 000 jeunes de 17 à 35 ans attendus à ce rassemblement œcuménique seront accueillis par des paroisses et des familles. Parmi eux, près de 10 000 Français, 4 500 Polonais et 2 600 Ukrainiens. Parmi les autres pays les plus représentés figurent l'Allemagne, l'Italie et la Croatie. Les participants sont encadrés par 1 500 volontaires. Le livret d'accueil a été édité en 21 langues. L'Alsace a mis en place une organisation impressionnante, près d'un an de préparation. Plus de 200 navettes ont été affrétées pour transporter les jeunes ainsi qu'un train et six trams spéciaux. Les rencontres de Thésée demandent en effet une logistique énorme, notamment pour les repas. Le prieur de la communauté œcuménique, frère Aloïs, confiera aux jeunes 4 propositions pour chercher la communion visible de tous ceux qui aiment le Christ. La fin de la rencontre sera marquée par la prière pour la paix et la fête des peuples. Un événement précieux, porteur d'avenir et d'espérance. Frère Benoît est membre de la communauté de Thésée et fait partie de l'équipe d'organisation. Il nous parle de ce rassemblement.
C'est frère Aloïs qui a préparé son message, comme il le fait chaque année, aux jeunes participants à notre rencontre. Il a choisi ce thème parce que ça s'inclut dans une réflexion de 4 ans autour du thème de la solidarité. Comment développer, créer des liens nouveaux de solidarité dans les sociétés aujourd'hui. Il a voulu consacrer une année à la solidarité entre nos églises. Comment découvrir des voies nouvelles pour vivre ensemble les uns avec les autres. C'est finalement ce qu'on appelle dans le vocabulaire chrétien la communion. À Strasbourg, ça se vit tout particulièrement parce qu'ici en Alsace, les catholiques, les protestants sont vraiment très habitués à travailler ensemble et ça donne une belle réalité, une belle couleur à cette rencontre européenne.
Alors justement, Strasbourg, vous allez être un peu à cheval entre France et Allemagne, sachant que cette année, on célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale. J'imagine que cette rencontre revêt une dimension assez symbolique pour le coup.
Tout à fait symbolique. Nous allons terminer la rencontre le 1er janvier 2014. Et en effet, nous nous souviendrons au bord du Rhin de cette guerre qui a séparé nos peuples en Europe. 100 ans plus tard paraît bien loin parce que, entre-temps, la paix s'est construite. L'Europe, avec bien sûr ses limites, permet à beaucoup de gens de voyager, de se connaître. Et ça va être en effet une réalité très très belle vécue au cours des rencontres, que ce soit vraiment de part et d'autre du Rhin que l'accueil se fera.
Ce pèlerinage est organisé comme les éditions précédentes. Vous aurez des temps de prière qui vont vous rassembler, mais également des temps de réflexion avec cette année des sujets de société, des sujets d'actualité particulièrement significatifs. Je prends quelques-uns. Crise, chômage, précarité, faut-il inventer un nouveau modèle économique, le dialogue écuménique, justice et droits de l'homme, l'Europe terre de migration. J'imagine que ces sujets ont été choisis vraiment pas par hasard.
Non, c'est vrai, et la liste est particulièrement impressionnante, je dois dire, cette année, puisque sur les deux sessions de Carrefour, il y aura 24 thèmes proposés. Et comme vous le dites, ces thèmes traitent vraiment une grande palette d'engagements possibles, de thèmes abordés. Ce sera vraiment très incarné dans l'actualité, très concret, très partant des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui. Il y a encore bien d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Le thème de l'écologie, le thème de l'Europe. Tout cela va être en effet au cœur des réflexions des jeunes pendant les après-midi.
Et parmi les délégations, l'une des plus importantes, c'est la délégation ukrainienne. Là aussi, ça revêt un sens particulier quand on sait tout ce qui se passe en Ukraine, notamment autour de la contestation antigouvernementale.
On ne l'attendait pas du tout, puisque les jeunes ukrainiens ont commencé à s'inscrire très nombreux en septembre, en octobre. Et puis, on reçoit chaque jour en ce moment des messages, des photos même de certains qui se préparent à venir à Strasbourg et qui sont sur la place de l'indépendance à Kiev. Donc c'est vrai qu'il y ait autant de jeunes de l'Ukraine, donc ce sera la deuxième délégation, qu'il y en ait autant qui viennent à Strasbourg dans la ville du Parlement européen, il est clair que ça va marquer beaucoup la rencontre. Beaucoup de jeunes ukrainiens vont devoir expliquer, partager sur ce qui se passe actuellement dans leur pays, dans leur famille d'accueil ou bien même avec les jeunes participants qui seront avec eux dans les paroisses.
Frère Benoît de la communauté de Thésée, interrogé par Manuela à Fidji. Le pape François a envoyé un message aux participants de cette rencontre. Il rappelle que la région de Strasbourg a été déchirée par des guerres qui ont fait d'innombrables victimes, mais que cette terre porte aussi une grande espérance, celle de la construction de la famille européenne. Le pape compte sur les jeunes pour qu'à travers leur foi et leur témoignage, l'esprit de paix et de réconciliation de l'Évangile rayonne parmi leurs contemporains. Les familles, quant à elles, se retrouvent à Madrid jusqu'au 29 décembre. Elles sont venues par milliers de toute l'Europe pour célébrer ensemble dimanche la fête de la Sainte Famille. Pour la 7e édition de ce rassemblement, les organisateurs ont choisi comme thème une formule du pape François, la famille, un lieu privilégié. Les participants entendent défendre l'institution de la famille, le respect du droit inconditionnel à la vie, les mères en difficulté, les pauvres, les sans-abri et les personnes maltraitées et abandonnées. Les journées sont ponctuées de conférences et d'ateliers. Toutes les générations se relaieront devant le Saint-Sacrement exposé jour et nuit. Sous le mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, marqué par l'adoption de lois telles que le mariage gay et la libéralisation de l'avortement, l'Église catholique espagnole était parvenue à mobiliser les familles et à organiser des manifestations monstres. Ce rassemblement se tient dans un contexte différent. Le gouvernement actuel a annoncé une nouvelle loi de protection de la vie du conçu et des droits de la femme enceinte qui mettra fin, si elle est adoptée par le Parlement, à la loi en vigueur depuis 2010. Le projet limite les IVG à deux cas, lorsqu'il existe des risques pour la santé physique ou psychique de la mère ou lorsque la grossesse est le fruit d'un viol. Le Forum des familles a exprimé sa satisfaction, mais le nouveau projet de loi est loin de faire l'unanimité au sein de la population espagnole où les clivages se sont encore accentués sur les questions sociétales. Parallèlement, pour préparer le prochain synode sur la famille, des initiatives de prière ont été organisées. Ainsi, dimanche prochain, fête de la Sainte Famille, le secrétaire général du synode des évêques, Mgr Baldisseri, célébrera une messe en la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Au même moment, une messe aux mêmes intentions sera célébrée au sanctuaire de Lorette, en Italie, par le délégué pontifical, Mgr Tonucci. Tandis que le président du Conseil pontifical pour la famille, Mgr Vincenzo Paglia, célébrera la messe à Barcelone, en la basilique de la Sagrada Familia d'Antoni Gaudi. On écoute Mgr Paglia.
C'est une initiative qui veut souligner l'importance de la famille quelques jours après Noël. Nous pouvons dire que Jésus a eu besoin d'une famille pour naître, pour être éduqué, pour entrer dans la société humaine. La famille a été bâtie, si nous pouvons le dire, par Dieu lui-même. Et l'Église a reconnu que Jésus a donné à la famille créée par Dieu la grâce pour témoigner au monde entier, à la société dans laquelle nos familles vivent, la extraordinaire de l'énergie de l'amour. Un amour qui pousse à aller vers les autres, parce que la famille est structurée pour être une cellule qui donne la force à la société tout entière.
On a évoqué Barcelone, Mgr Paglia. Qu'est-ce que signifie cet événement en Espagne? On sait que les débats sociaux et sociétaux ont été très vifs, justement, dans ce pays. Quelle est la signification en particulier dans le cadre espagnol?
Je crois que dans le cadre espagnol, mais comme dans l'Europe entière, hein, nous voulons dire que la famille n'est pas un poids insupportable. La famille, c'est la source d'une société ouverte, d'une société à la mesure des hommes, contre une mentalité individualiste. Et nous devons dire que la famille, c'est une occasion pour redécouvrir la beauté de la société, trouver un lien, une sorte de fil rouge qui, de la famille, traverse la ville, traverse la société, jusqu'à arriver à la famille de peuple, à la famille des nations. Dans ce sens, dire ça en Espagne signifie beaucoup sur le plan politique, sur le plan anthropologique et, je crois, sur le plan même de la société.
Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, interrogé par Olivier Bonnel. Dimanche à l'Angélus, le Saint-Père récitera une prière spéciale pour la famille qu'il a lui-même composée. Toutes ces villes seront reliées avec le Vatican en vidéoconférence. Je vous rappelle que la prochaine Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques aura pour thème les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. La situation reste confuse à Bangui, la capitale centrafricaine, alors que le bilan des violences ne cesse de s'alourdir. Certaines estimations font état d'un millier de personnes tuées par balles ou à l'arme blanche depuis le 5 décembre. Près de 710 000 déplacés ont été comptabilisés sur tout le territoire. Depuis le début de l'intervention française, les violences interconfessionnelles se sont multipliées entre les milices dites chrétiennes et la Séléka, l'ex-rébellion majoritairement musulmane qui a chassé le président François Bozizé en mars 2013. Beaucoup de chrétiens et animistes, victimes pendant des mois des exactions des Séléka, ont soif de vengeance contre les ex-rebelles et les civils musulmans qui leur sont désormais associés. Nous avons contacté par téléphone l'archevêque catholique de Bangui, Mgr Dieudonné Nzampalenga.
La mission Tandaris et Miska étaient venues pour désarmer les Séléka, permettre d'ouvrir des corridors, faciliter le travail aux humanitaires, afin d'avoir accès à la population civile, en même temps aussi aider la population à préparer les élections libres, transparentes et crédibles. Or, par les événements du 5 décembre, où nous avons les anti-Balaka qui sont venus changer la donne, eh bien, nous avons constaté que nous avons monté d'un cran au niveau de la violence, au niveau de la barbarie et les tueries. Et nous pensons que le nombre qui est assigné actuellement, il est insuffisant. La preuve, Sandaris à Bangui n'y arrive pas avec les Miska. Voilà pourquoi nous pensons qu'une mission onusienne de casque bleu serait la bienvenue pour faciliter la pacification de la République centrafricaine et permettre aux civils qui sont dans plusieurs sites, plus de 400 000 personnes, qui puissent regagner leur maison.
Donc cette force supplémentaire, ce serait pour sécuriser le pays. Est-ce que vous pensez que la question du nombre est la question essentielle? Il faudrait plus d'hommes, c'est comme ça qu'on y arrivera?
C'est pas seulement par la question du nombre. Il y a un autre travail qui doit être fait au niveau national, c'est-à-dire que chaque Centrafricain doit être convaincu que ce pays nous appartient et nous devons nous tendre la main, nous devons nous aimer, sans distinction ni de religion ni de race. L'intérêt national devait primer et je pense que cette prise en compte de chacun pouvait aider aussi les militaires. Certes, le pays est grand et qu'avec les forces en ligne actuellement, on ne peut pas faire face. Nous avons besoin d'autres forces pour pouvoir se déplacer, être coordonnés et aussi donner envie aux gens de reprendre leurs activités. Mais un travail sera fait et c'est ce que nous faisons pour que les gens changent de mentalité, changent de comportement et acceptent aussi de cohabiter. Nous avons dans le passé cohabité musulmans, chrétiens ensemble et nous continuons, nous, leaders musulmans et chrétiens, à dire qu'il est hors de question de nous diviser, hors de question de nous séparer, hors de question de nous entretuer, ça ne nous mènera à rien. Le cycle de représailles, de vengeance, de haine, c'est des cycles infernales, diaboliques. Et il va falloir en sortir de ce cycle-là, proposer une alternative, c'est-à-dire la non-violence, la tolérance et le pardon et la réconciliation. Ce n'est que par ces chemins-là qu'on pourra s'en sortir. Et je crois que ce travail a commencé déjà et il se fera pour compléter avec le nombre des forces qui pourraient arriver.
Parce qu'en effet, vous parlez aujourd'hui d'un danger d'effroyables représailles contre des musulmans, même si, vous le dites aussi, ce conflit n'est pas en soi un conflit entre musulmans et chrétiens.
Nous le disons parce que nous sommes sur le terrain, nous avons vu comment les gens s'acharnent. Jamais nous avons vu dans ce pays, et nous disons non à la violence, nous condamnons, nous dénonçons cette situation, nous ne voulons pas que nos frères, les musulmans, qui sont ici, nés ici, ils ont fait le choix d'être musulmans, qu'ils soient tués sauvagement comme des bêtes, nous refusons. C'est la même chose pour les chrétiens aussi. Or, la tentation, elle est grande pour certains de se faire justice soi-même. Si la justice marchait bien dans ce pays, peut-être que les faibles n'auraient pas cette impression d'être délaissés, d'être abandonnés, et qu'ils pouvaient avoir confiance que le plus fort n'a pas le dernier mot, mais le dernier mot revient à la justice qui défend les faibles, et nous n'avons pas eu ça. L'impunité nous a conduit aussi à cette question de vindicte populaire, où chacun a voulu se rendre justice soi-même, que nous refusons en disant « laissons la justice nationale, internationale, et plus tard la justice divine agir aussi ».
Monseigneur Nzapalenga, archevêque catholique de Bangui, interrogé par Marie Duhamel. Les obsèques religieuses d'une personne transsexuelle ont été célébrées ce vendredi à Rome en l'église du Jésus, l'église mère des Jésuites au cœur de la ville, en présence de la ministre italienne de l'intégration Cécile Kienge et du maire de Rome Ignazio Marino. Andrea Quintero avait été retrouvé sans vie fin juillet à la gare centrale de Termini où il vivait depuis 4 ans. Ce Colombien de 28 ans, transsexuel et toxicomane, avait été battu à mort. À l'origine de l'initiative de cette messe, le centre jésuite à Stalie, spécialisé dans l'accueil des réfugiés. Objectif, attirer l'attention des Romains sur les très nombreuses situations de grande détresse et de discrimination vécues dans l'indifférence générale. La célébration a été présidée par le président de la Caritas italienne, Monseigneur Enrico Ferrocci. Un responsable catholique américain accusé d'avoir fait détruire une liste de prêtres pédophiles a été acquitté. Monseigneur William Lynn, ancien archevêque de Philadelphie, avait été condamné à une peine de prison pour mise en danger d'enfants. Il avait dissimulé des cas d'agression sexuelle et n'avait rien fait pour éloigner des prêtres de poste les mettant en contact avec des mineurs. Cette condamnation a été annulée par la Cour supérieure de Pennsylvanie, l'accusé ne pouvant pas être considéré comme responsable des enfants en danger. Monseigneur Lynn devra demander une libération sous caution à un juge de première instance. Son procès avait fait grand bruit aux États-Unis, Monseigneur Lynn devenant le premier haut responsable catholique américain sanctionné par la justice dans une affaire de ce type. Et puis je vous rappelle qu'à partir du 7 janvier, après la pause des fêtes de fin d'année, des groupes de fidèles seront à nouveau admis à la messe du pape François le matin dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Jusqu'ici, les invitations avaient été adressées essentiellement au personnel du Vatican. À partir de janvier 2014, des délégations de fidèles des paroisses romaines accompagnés de leurs prêtres, pourront tour à tour participer à cette célébration. Les homélies données par le Saint-Père au cours de ses messes quotidiennes à la maison Sainte-Marthe sont très appréciées. Elles sont stimulantes, elles offrent des repères et des enseignements pour un chemin de foi à parcourir avec une vigueur renouvelée. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous invite à nous retrouver également sur Facebook Radio Vatican. en français. Et je terminerai cette émission par le dernier tweet du pape François. Que la joie de l'évangile soit toujours dans vos cœurs, spécialement en ce temps de Noël. Merci de nous avoir suivis.